Le micro du soir, Aïch la RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le micro du soir. Aujourd'hui, nous recevons Adriana Record, directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie. C'est la deuxième fois que nous l'accueillons au micro du soir. La première fois, c'était il y a plus de 2 ans, voire 3 ans. Il était donc temps de se réunir à nouveau. Nous allons évidemment parler de l'actualité de la Chambre, mais aussi, et je suis ravi qu'Adriana Record ait accepté, qu'on parle d'autres sujets, comme le coaching et l'art contemporain. Adriana Record, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être une nouvelle fois donc au micro du soir. Il était temps. Alors, l'actualité de la Chambre, de l'extérieur, je vois une très belle structure que vous dirigez et qui a l'air de s'être pleinement développée aujourd'hui, proposant divers services. L'équipe, vous me le disiez avant l'entretien, est bien en place. Bref, tout va bien.
Tout va bien, surtout parce que la Chambre, elle se repose sur une très très belle communauté. Nous avons aujourd'hui 600 entreprises qui sont membres et qui sont représentatives pour l'écosystème franco-roumain, des grandes entreprises, des petites entreprises, des entrepreneurs français, roumains, de Bucarest, de toutes les régions de Roumanie. Et donc, je pense que cette diversité de taille, de secteur, de style, en fait, donne une dynamique et une ambition particulière pour nous, en fait, l'équipe permanente.
Et vous êtes à Bucarest, vous êtes combien?
Dans l'équipe permanente, nous sommes 15 personnes.
D'accord, 15 personnes. Et vous vous déplacez, ça on le voit dans vos communications, souvent en province, hein, il y a des rendez-vous d'affaires, donc vous êtes pas seulement à Bucarest, mais aussi en province.
Exactement, chaque année on visite entre 10 et 15 villes différentes avec l'équipe, avec les membres du conseil d'administration, avec des entreprises, pour rencontrer en fait les entreprises locales, la communauté locale, les autorités publiques locales, et créer cette synergie en fait entre nos membres et les régions.
Et là, c'est davantage des PME, j'imagine. Pas nécessairement.
Pas nécessairement, parce que les multinationales aussi, surtout celles qui sont dans les services et qui ont des filiales localisées, en fait, ont besoin de, elles aussi, se connecter davantage avec le local, en fait.
Mmh. Alors, avant de parler des PME, précisément ces multinationales, je pense à celles d'origine française notamment, qui sont établies en Roumanie depuis des années. On sent que la Roumanie reste un pays fort. Il y en a qui ont établi leur centre régional en Roumanie, à Bucarest ou ailleurs, dans d'autres villes. Est-ce que vous sentez précisément, face au contexte géopolitique tendu aujourd'hui, que la Roumanie, plus que jamais, est importante pour une multinationale, notamment d'origine française? Ou est-ce qu'il y a aussi de la crainte? Comment vous sentez l'état d'esprit de ces multinationales?
Les entreprises françaises qui ont investi en Roumanie restent majoritairement fidèles à la Roumanie. Leur investissement est de longue date et il est durable. Néanmoins, on est dans un contexte économique et politique qui est particulièrement provocateur.
Oui, je pensais à la géopolitique avec la guerre en Ukraine, mais nationalement, effectivement, vous le dites, c'est tendu également, oui.
Et c'est notre préoccupation principale depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, de avoir un dialogue soutenu d'un côté avec les entreprises et de l'autre côté avec les autorités publiques, justement pour exprimer ce besoin de stabilité politique d'un côté, de prédictibilité économique et fiscale de l'autre côté, pour assurer la compétitivité des entreprises qui ont déjà investi ici et qui doivent défendre en fait leur positionnement sur un contexte international de défendre l'attractivité de la Roumanie pour des nouveaux investisseurs.
Mmh. Vous diriez que on attend avec impatience que la présidentielle soit passée pour souffler un petit peu?
Le cycle électoral est perturbateur et effectivement,
ça, vous le sentez, hein,
ça crée un état d'attente en fait pour les décideurs, pour les projets. On espère que les élections de mois de mai passées, on reviendra en fait sur un contexte de long terme, moyen terme, long terme.
Il y a de prédictibilité, oui, comme vous le disiez. Qu'en est-il des PME? Est-ce qu'il y a de nouveaux entrants qui sont de nouvelles arrivées d'investisseurs français ou autres? Qu'est-ce qui se passe au niveau des PME et les secteurs aussi qui sont, se développent?
Sur les PME, ce qu'on observe, et ça c'est une tendance qui n'a pas vraiment changé, on observe ça depuis à peu près 2 ans, dans le contexte du recentrage industriel européen, en fait, on voit beaucoup d'entreprises françaises de taille moyenne qui sont à la recherche de fournisseurs et de partenaires industriels en Roumanie, en fait. Enfin, ils sont à la recherche de partenaires industriels dans toute la région, notamment celles qui rapatrient, en fait, qui ont commencé à rapatrier leur activité depuis l'Asie ou enfin d'autres sites de production. Et pour l'Europe de l'Est, centrale et orientale, enfin, ça a représenté une nouvelle opportunité, en fait, de se reconnecter sur une filière industrielle européenne.
D'accord. Donc ça, vous avez vraiment senti ça sur les dernières années, un recentrage depuis l'Asie.
Sur le côté industriel, c'est clairement la tendance. Après, on voit également la tendance des PME ou des entrepreneurs dans les services, notamment technologiques, en fait, qui retrouvent en Roumanie, en fait, un marché qui croît malgré la situation temporaire. C'est un marché qui croît, et du coup les solutions de plus en plus technologiques et sophistiquées trouvent pleinement leur place ici, en fait.
Et puis il y a un aspect, j'imagine toujours l'aspect culturel, en tout cas pour les entreprises, les PME francophones. La Roumanie, on sent que c'est toujours un pays proche, plus proche peut-être que la Bulgarie ou la Serbie, ou aussi politiquement, c'est encore plus instable. Hein, je pense à la Bulgarie qui a changé 6 fois de gouvernement en 2 ans et demi, je pense. Donc là, on a une carte à jouer véritablement en Roumanie.
Je pense qu'effectivement, le contexte politique européen fait que c'est un élément qui devient relatif, notamment pour une petite entreprise ou pour une start-up, qui sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus capables de s'adapter. Et la proximité culturelle, linguistique, oui, ça reste un des atouts principaux de la Roumanie. Malgré le fait que, voilà, de plus en plus, on constate un regret, en fait, une régression de la langue française, et qu'on souhaiterait, développer davantage cette filière, en fait, francophone.
Vous sentez qu'au niveau des entreprises, engager quelqu'un qui est francophone, ça reste pour une entreprise française francophone, ça reste important, même si on va parler en anglais majoritairement ou éventuellement en roumain, je ne sais pas, au sein des structures. Est-ce que le fait de parler français, ça reste important?
Ça le reste pour 2 raisons principales. D'abord, il y a des entreprises, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont leurs centres régionaux en Roumanie, et du coup, ils ont besoin de compétences techniques en français pour adresser des questions qui sont, enfin, régionales ou internationales. Et donc, ce besoin se traduit notamment au niveau des jeunes, ou enfin des compétences, comme je disais, qui sont très très techniques. Et une autre raison pour laquelle une entreprise a besoin de recruter des francophones, c'est cette tendance de faire grandir des générations de dirigeants locaux, en fait. Et l'anglais, oui, est une langue qui est mondialement parlée, c'est la langue du business. Mais parler français, ça donne un cadre, d'autres perspectives, en fait, dans une entreprise. Et les entreprises en sont de plus en plus conscientes que garder cette francophonie au cœur de la culture de l'entreprise permet de développer, en fait, des générations de dirigeants locaux qui sont...
Et qui pourront être en lien direct, véritablement direct avec le siège à Paris. Ouais. Pardon, excusez-moi. Sur les ressources humaines, précisément, j'ai souvent entendu c'était sous tension, qu'il était difficile en Roumanie de garder ses employés. Est-ce que, en tout cas, c'est le cas en, en Europe de l'Ouest, je sais en France, mais aussi dans d'autres pays, les jeunes, ont, au-delà du salaire, ils ont vraiment besoin de sentir qu'ils travaillent pour une structure qui donne un sens à leur vie, qui s'engage, que ce soit une structure qui non seulement produise des biens et des services, mais aille au-delà. C'est en tout cas un sentiment fort dans la jeunesse en Europe de l'Ouest. Je crois le sentir également en Roumanie. Est-ce que les dirigeants, vous connaissez, ils ont pris conscience de ça, qu'il faut offrir un travail, mais peut-être davantage aussi?
Je crois qu'il y a deux éléments qui confirment d'une certaine façon cette tendance. Déjà, avant la pandémie, cette course d'un job à l'autre, d'un poste à l'autre, qui était notamment motivée par une aspiration financière plutôt pour les jeunes. Après la parenthèse de la pandémie avec le travail à distance, en fait, qui a brisé beaucoup de liens au sein de l'entreprise, et donc aujourd'hui effectivement on voit ce retour des gens dans l'entreprise avec cette nécessité de retrouver quelque chose qui aille au-delà du travail. Comment les entreprises adressent ça? Bien sûr, il y a cette dimension de responsabilité sociale, d'engagement sociétal qui répond, qui adresse une partie du besoin, mais pas uniquement, parce que je pense que les jeunes, tout le monde, ont besoin notamment de se connecter aux autres, donc à la société, mais aussi entre eux, au sein de l'équipe, d'une communauté qui est à proximité de l'entreprise. Et moi, je ressens que les entreprises travaillent beaucoup dans ce sens-là, en fait, à recréer des communautés.
Au sein de leur structure.
Autour de leur structure, en fait.
Au sein, mais autour, c'est-à-dire faire
à partir de la structure, faire des cercles concentriques où la responsabilité sociale a un rôle majeur, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Je sens qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui tient au positionnement du travail dans la société en soi, en fait.
Et ça passe par, je pense, à... Qu'en est-il des team building, par exemple? Ce genre de...
Je pense que la notion d'exercice. De team building a changé radicalement dans les 5 dernières années en termes de façon de le vivre, et qu'on regarde davantage sur des team building qui apportent cette dimension de connexion, d'échange, et moins celle de loisir et de... On fait la fête parce que ça crée une bonne ambiance, oui. Mais ça crée du lien, le fait qu'on passe du temps ensemble et on voit de plus en plus plutôt des petits moments de connexion entre les équipes dans les entreprises, des plus petites équipes. Vaut mieux passer un déjeuner ensemble ou une matinée ensemble dans une équipe de 15 personnes plutôt que partir en team building à 100, à 1000 kilomètres de là, en fait.
Oui. D'accord. Et quand vous dites le lien qu'il faut créer entre l'entreprise et l'extérieur, c'est encore une fois être en lien avec des structures, des ONG qui s'occupent de responsabilité sociale, ça reste quelque chose de fort.
Ça reste quelque chose de prioritaire, et de plus en plus d'entreprises ont des programmes de volontariat des salariés pour les engager dans différentes causes. En fait, ils ont plusieurs options qui donnent des journées de volontariat pendant la semaine, proposent des associations ou des projets d'entreprise pour engager les collaborateurs, et ainsi de suite. Oui.
Alors ce sujet-là nous amène à un autre sujet qui a attiré votre attention, on va dire ça comme ça, dernièrement, c'est celui du coaching. Alors vous allez nous dire, si vous le voulez bien, comment ça vous a intéressé et qu'est-ce que c'est d'abord le coaching pour vous?
L'idée du coaching m'est venue dans un contexte où je réfléchissais comment changer de style de management. Moi-même, j'avais besoin de faire un changement pour mon organisation.
Ah oui, c'est parti de la chambre,
Exactement, ça faisait plusieurs années que je développais une équipe avec des changements, des transformations, et à un moment donné, j'ai senti le besoin de le faire différemment, et je regardais le coaching comme un moyen, en fait, de travailler davantage cette autonomie, de faire rayonner l'équipe, de prendre un peu de distance par rapport au quotidien, et et accompagner de façon différente. Et donc pour moi, le parcours du coaching a démarré ainsi. J'ai fait un cours pendant plusieurs mois, assez applicatif, en travaillant en parallèle avec, enfin sur des situations pratiques. Et à partir de là, en fait, j'ai découvert que, enfin, j'ai été fascinée par la capacité de transformation de, enfin, du process. Parce que le coaching, finalement, oui, c'est des méthodes, mais c'est surtout un process. Et en appliquant les méthodes et en donnant crédit au process, on arrive toujours à.
Quand vous parlez de process, c'est-à-dire, c'est quoi le process?
Le process, c'est des étapes, en fait. Des étapes qui,
qui amènent au changement.
Qui amènent au changement, oui. Qui sont définies ou pas, mais c'est toujours des étapes qui sont identifiables. Beaucoup de transformations se passent entre ces étapes, c'est-à-dire en dehors des séances, les transformations ont lieu pendant que, comment dire, le cerveau se repose ou se connecte à autre chose. Et ça demande du temps. C'est rarement transformationnel sur le moment. Et surtout, c'est basé sur la volonté, en fait, ou le désir plus ou moins exprimé de la personne à aller au-delà, en fait.
Et vous, donc c'est une activité aujourd'hui donc, que vous pratiquez, enfin, vous mettez en application au sein de la chambre, j'imagine, au sein de votre équipe, mais aussi au-delà, c'est quelque chose que vous avez envie de développer, vous personnellement.
Personnellement, je...
Quelle est la branche qui vous intéresse particulièrement dans le... Parce que, j'imagine qu'il y a pas mal de concurrence, hein, parce que c'est beaucoup de professionnels qui cherchent ce genre de reconversion. Vous, par rapport à ça, quelle est la niche que vous aimeriez développer?
Je travaille en parallèle sur avec quelques personnes sur des process de coaching. J'aime beaucoup travailler avec des entrepreneurs. Parce que j'aime beaucoup ce...
Donc plutôt le top management.
Beaucoup des entrepreneurs en tant que tels, en fait. Des gens qui ont des business, qui sont en phase de...
Petit ou grand.
Moyen ou grand, ouais. Peu importe. L'idée, c'est souvent, j'ai développé quelque chose, j'en suis fière, j'arrive sur un plateau, comment je vais plus loin, en fait, comment je développe mon entreprise, comment je détache ma personne de mon business, comment...
Donc c'est travailler avec le dirigeant qui vous intéresse.
Exactement. Mmh. Mais pour moi, ça reste quand même une activité plutôt marginale, plutôt en parallèle de ce que je fais tous les jours, en fait.
D'accord. Il y a une question qui me vient quand je pense au coaching, c'est à l'aspect psychologique. Je pense qu'on est, quand on est intéressé par ce champ-là, on est intéressé par la psychologie humaine de façon générale. Quelle est pour vous la frontière entre le coaching et la psychothérapie, mais enfin la psychologie, disons, de façon générale?
Toute interaction humaine et psychologique. L'échange se base sur la psychologie. Dans la pratique du coaching, il y a une distinction très claire de la psychothérapie qui demande cette complètement différente compétence. Le coaching ne se repose pas sur les mêmes méthodes, sur les mêmes techniques, et n'a même pas les mêmes objectifs, en fait. Parce que, globalement, la psychothérapie travaille sur le passé de la personne, alors que le coaching se focalise davantage sur l'avenir, en fait, sur la capacité de l'individu à se projeter dans un avenir et de travailler avec soi-même, avec ses décisions pour y arriver.
Mais j'imagine que vous devez sentir parfois qu'il y a des aspects psychologiques qui entrent en ligne de compte ce que je veux dire, c'est, est-ce que parfois vous avez déjà eu un dirigeant en face de vous et vous vous êtes dit qu'il aurait plutôt besoin d'une psychothérapie parce que pour que véritablement le process fonctionne, il y a un changement plus... de fond qui est nécessaire.
Et c'est souvent le cas, en fait. Les deux process peuvent se dérouler en parallèle.
Et là, à ce moment-là, il faut savoir dire, écoutez, voilà où je peux aller avec vous, mais...
Absolument. C'est un échange qui doit être complètement transparent.
Ça vous est déjà arrivé, ça, de se retrouver dans ce genre de situation? Mais c'est quand même pas facile de dire à quelqu'un, vous savez, je pense que vous auriez besoin d'aller voir quelqu'un.
Je pense que les gens qui sont ouverts à ce type de démarche, en fait, ils sont ouverts à comprendre, à mieux comprendre leurs besoins, et même s'ils ne réagissent pas tout de suite, ou enfin ils se retirent, la pensée fait son chemin à fur et à mesure, et même si le déclic n'est pas immédiat, après, il y en a qui arrêtent le coaching et commencent une psychothérapie, ou l'inverse, en fait, ou jamais, toutes les options sont sur la table. Ça dépend, encore une fois, étant basé sur la volonté de la personne à travailler sur soi-même, la personne est la maîtresse, en fait, le maître de ce changement.
Et est-ce qu'il y a des liens entre... Je me pose cette question maintenant, j'y avais jamais réfléchi, entre le coach et la psychothérapie. Est-ce que ces deux secteurs d'activité, on va dire, ont des relations entre eux? Est-ce que le coach va diriger vers tel ou tel psychothérapeute ou inversement? Est-ce que ça arrive?
Déjà, il y a beaucoup de psychothérapeutes qui peuvent faire du coaching, qui ont fait aussi, qui se sont certifiés au coaching. Il y a une branche, en fait, qui est spécialisée, en fait, qui réunit les deux, mais qui, comment dire, travaille dans certaines circonstances qui sont peut-être un peu particulières. Donc oui, il y a des passerelles entre les deux. Je dirais pas qu'il y a des références entre les deux. Personnellement, j'ai jamais donné une référence de psychothérapeute à quelqu'un avec lequel j'ai fait du coaching.
Mais ça peut le faire. Enfin, ça peut arriver, oui.
Ça pourrait, mais ça dépend.
Et vous, en tant que dirigeante, cette expérience avec le coaching, vous avez vu, parce que ça fait un petit moment que vous vous y intéressez, une évolution, enfin, avec votre équipe, vous avez vu les bienfaits, clairement.
Clairement, et ça c'est un des points de satisfaction majeurs que j'ai eu avec mon équipe l'année dernière, parce que je pense que cette démarche vers l'autonomie, vers les différentes étapes qu'on a passées ensemble ont vraiment porté leurs fruits. Et moi je dis aujourd'hui que je suis très fière, j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais eue, en fait.
Précisément parce que vous avez mis en place aussi ce process, comme vous le dites.
Et parce qu'il y a eu cette chimie, en fait, et que, comment dire, c'est un dialogue, c'est un pacte entre les deux.
Et vous avez été tout à fait transparente par rapport à ça.
Absolument, oui.
Adrien Haricor, j'aimerais que vous nous parliez maintenant de notre domaine qui vous est très cher, qui n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise, enfin quoique, c'est celui de l'art contemporain. Pourquoi vous aimez l'art contemporain?
Ça, c'est une question difficile, pourquoi j'aime l'art contemporain, mais c'est un domaine qui est très lié à l'entreprise. Déjà, enfin, mon expérience dans l'art contemporain a commencé à travers l'entreprise. Bien sûr, j'en étais sensible depuis très longtemps, mais il y a quelques années, dans un process de mentoring, en fait, parce qu'avant d'être coach, j'avais déjà cette préoccupation, en fait, de travailler avec des entrepreneurs, donc je faisais déjà du mentoring. J'ai commencé avec un ami, en fait, à travailler sur un projet entre...
Quand vous dites mentoring, pour préciser un petit peu...
La différence entre le coaching et le mentoring.
Oui.
Le coaching, c'est un process où le coach, en fait, n'intervient pas à travers son expérience personnelle, en fait. Il guide la méthode, il guide le process. Le mentoring, c'est un échange, en fait, où on partage et on apprend les uns des autres. Et donc, j'avais commencé ça avec un ami qui avait un projet de mettre justement l'art dans l'entreprise. Et on a travaillé pendant 2 ans ensemble autour de ce projet, en structurant, en fait, le business case. Et en retour, moi j'ai eu cette ouverture extraordinaire sur ce que c'est l'art contemporain en Roumanie, et surtout, enfin, ouvrir d'autres perspectives sur la position de l'art contemporain un peu dans le monde actuel.
Donc l'idée de ces collaborations, c'était intéresser davantage le monde dans l'entreprise à l'art contemporain.
Exactement.
Comment l'art contemporain pouvait apporter...
Quelle est la place de l'art contemporain dans l'entreprise, autant pour les collaborateurs, et post-pandémie, c'est vraiment un sujet qui devient de plus en plus important, parce que ça permet de créer du lien, et justement ça contribue à cette idée de sens dont on parlait tout à l'heure. mais aussi pour le positionnement de l'entreprise, parce que l'association entre l'art et l'entreprise, elle n'est pas nouvelle, en fait. Il y a des grandes entreprises qui ont toujours, qui ont utilisé l'art comme une façon de créer, de rayonnement de marque. Et donc, tous ces éléments-là, comment ils sont adoptés, en fait, par les entreprises en Roumanie, et comment rendre, en fait, un business dans l'art rentable et une vraie aventure d'entrepreneuriat, le faire grandir.
D'accord. Donc, ça va. Donc, il y a déjà des entreprises que vous connaissez ici, en Roumanie, donc qui, au-delà du mécénat, qui s'impliquent et qui font que leurs employés aussi puissent avoir un rapport avec l'art.
Absolument, absolument. Il y a des entreprises qui. La personne avec laquelle j'ai travaillé, sa galerie, ont développé ce programme, en fait, de abonnement. Abonnement d'art, en fait, les entreprises.
Comment ça fonctionne exactement ?
Créent des galeries, en fait, d'œuvres artistiques dans les entreprises, en fait, dans les couloirs de l'entreprise, dans les bureaux, sur certaines thématiques, sur certaines valeurs. Enfin, chaque entreprise, elle définit un petit peu son. C'est le galeriste qui définit le concept, ce qui permet à exposer de façon quotidienne, en fait, les gens. Aux œuvres artistiques. Et donc, c'est des programmes longue durée.
C'est carrément des expositions dans
des mini-expositions qui changent périodiquement dans l'année. Après, il y a des événements dans la galerie, en fait, qui permettent de connaître d'autres types d'artistes ou avoir d'autres types d'interactions qui sont plus médiées que celles dans l'entreprise. Donc, il y a ce partenariat qui permet, en fait, à amener les collaborateurs en contact avec l'art et à ouvrir en fait cette capacité de compréhension au-delà de l'expertise, de l'ouvrir un peu sur le conceptuel, sur les symboles, enfin de...
Je reviens à ma question. Vous, personnellement, je vais la formuler différemment, qu'est-ce qui vous touche de façon générale dans l'art contemporain ? Si on met, en mettant de côté le monde de l'entreprise.
Moi, j'étais toujours fascinée par le monde des idées et des concepts. Donc, je trouve que l'art contemporain, dans sa phase plus contemporaine, en fait, a eu cette...
cette évolution.
Oui, et plus cette explosion conceptuelle qui était extrêmement forte, en fait. L'art contemporain, aujourd'hui, il est très, très conceptuel. Et c'est comme un effet de balancier, d'ailleurs, parce qu'il est de plus en plus abstrait, de plus en plus symbolique, en se coupant même des références réelles. Et on voit de plus en plus un retour d'un art contemporain qui est plus tourné vers le figuratif, un ancrage dans la réalité. Et c'est très intéressant de voir qu'on est en fait à un croisement de courants.
D'un côté très conceptuel et d'un autre côté figuratif.
Exactement, exactement. Et que cette tendance, elle est renversée même au niveau des médias artistiques. C'est-à-dire que si il y a quelques années, on regardait davantage les installations artistiques comme étant les plus... innovante en fait, parce que ça permettait de traduire l'esprit humain en 3D. Aujourd'hui, on voit la photographie, par exemple, qui est de plus en plus poétique et qui combine en fait la technique et la poésie de façon très conceptuelle.
D'accord. Et vous investissez personnellement dans l'art ?
Un petit peu. Un petit peu, oui.
D'accord. Ouais. Et est-ce que qu'est-ce qui pour vous en Roumanie et vous, je suppose que vous connaissez des artistes, qu'est-ce qui est intéressant dans l'art contemporain roumain pour vous?
Ce que j'apprécie
et qui se différencie des autres pays de la région.
Je pense qu'il y a une tendance assez régionale dans l'art contemporain. On peut le voir sur plusieurs pays avec des influences.
Vous diriez qu'il y a une tendance art contemporain pays d'Europe centrale et de l'Est.
Oui, qui est très connectée d'une certaine façon avec des centres artistiques qui sont en Europe centrale ou occidentale. Berlin, sans doute, mais avec des artistes qui font des va-et-vient culturels en fait entre les différents centres. Moi, ce que j'observe, enfin, ce que je préfère, ou je suis davantage exposée à Roumanie, donc comme je disais, c'est la photo. Il y a des artistes que j'apprécie particulièrement dans ce travail en fait technique, lyrique, et qui me plaisent beaucoup. Une autre tendance assez présente dans l'art contemporain roumain, c'est le mélange des médias, en fait, collage avec différents types de matériaux qui se superposent et qui créent du volume. On a des artistes contemporains qui travaillent beaucoup le dessin. Mais je dirais que c'est très éclectique, en fait. Mmh. Finalement, c'est très éclectique. Mmh.
Et dernière question, à dernière record, je sais que vous allez souvent à Paris, pour des raisons professionnelles et autres. Qu'est-ce que vous aimez dans votre parcours culturel à Paris?
Dernièrement, ce que je préfère davantage, c'est marcher dans la rue. C'est redécouvrir Paris... Paris de tous les jours. Clairement, les espaces d'exposition, les musées restent une attraction. Enfin, Paris n'arrête jamais à proposer des nouvelles choses. Et surtout, du point de vue culturel, Paris est redevenu une scène internationale très très forte pour l'art contemporain, avec un recentrage en fait d'événements qui avant se passaient dans plusieurs villes.
L'expliquez comment ?
Déjà, le fait que Londres, en fait, le marché britannique est sorti de l'espace européen, a permis en fait à Paris de récupérer, une communauté de collectionneurs et d'artistes, et ça a donné un peu plus d'envergure à des événements parisiens.
Mmh. Et elle est davantage en compétition avec Berlin, alors j'imagine.
Avec Berlin, avec Milan.
Avec Milan également. Oui. Ouais, ouais. Adrien Record, merci beaucoup de nous avoir parlé de tous ces sujets différents. C'est ce dont j'avais envie ce matin avec vous. Merci votre analyse de la situation pour la Chambre et pour les entreprises établies ici, mais également pour vos ce que vous avez dit sur le coaching et l'art contemporain. Merci infiniment. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Week-end Placoute. Au revoir.
Le micro du soir, Aïcha RFI.